France Inter. .fr.
La revue de presse avec Olivier Bénis. Rebonjour Olivier.
Bonjour Laetitia.
Et on commence avec cette interview de Gérard Collomb. On en parle à l'instant avec nos invités dans le journal du dimanche.
Un entretien où le ministre de l'Intérieur ménage la chèvre et le chou, à la fois le défenseur des migrants et l'habitant de Calais en colère. Il balaye la crainte d'une nouvelle jungle dans le secteur. Nous ne voulons pas rééditer l'expérience passée. L'on avait commencé avec un centre de 400 personnes et terminé à 8000, explique Gérard Collomb, qui annonce la création de deux centres éloignés de Calais et de Dunkerque, mais aussi la création de 3500 nouvelles places d'accueil en 2018, tout en accélérant aussi les expulsions. Nous distinguons les réfugiés de ceux dont la migration obéit à d'autres ressorts, notamment économiques, dit-il. Si l'on ne fait pas cette distinction, ce sera le droit d'asile qui sera remis en question. Le JDD qui fait aussi une analyse intéressante de la méthode Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, aux antipodes dans la forme de ses prédécesseurs hyperactifs, comme Nicolas Sarkozy ou Manuel Valls. Un de ses collègues au gouvernement s'en réjouit. L'hyperactivité très théâtralisée des ministres précédents n'a pas fait une politique efficace. Il était nécessaire de rompre avec cette habitude. Un autre résume le fonctionnement du ministre. Collomb, c'est la culture lyonnaise, celle des négociants en tissu. Il procède avec son sourire, sa bonhomie, mais quand vous vous retournez, vous vous apercevez que vous avez acheté 2 tonnes de tissu. À l'intérieur, c'est pareil. Il est souriant et sympa, mais il ne lâche rien.
Et justement, en face, Olivier Bénis, il trouvera sans doute souvent Nicole Belloubet.
La ministre de la Justice, qui fait la une du Parisien ce matin, alors que son projet de loi sur la confiance en politique est à deux doigts d'être voté définitivement par le Parlement mercredi. Une loi à qui certains reprochent de ne pas aller assez loin, mais que la ministre défend point par point. Rien sur le pantouflage, c'est parce qu'il existe déjà une loi du 20 avril 2016 sur la déontologie. La fin des emplois familiaux, ça ne concerne pas la famille au sens large et ce genre d'emploi n'est plus accepté par nos concitoyens. La suppression de la réserve parlementaire, les sommes seront réinjectées dans les politiques générales qui bénéficient au territoire. Il est aujourd'hui anachronique pour les parlementaires de distribuer des subventions. Bref, pour la ministre, ce projet est un bon point de départ. Il faudra qu'il y ait une évolution des comportements, mais d'ores et déjà, cette loi témoigne d'une volonté politique puissante de modifier la vie politique.
Autre personnage intéressant dans le Parisien, aujourd'hui, le militant Cédric Héroux.
Oui, un Héroux pas très discret, titre le journal. Cédric Héroux, donc, collectionneur de garde à vue, militant de la cause des migrants dans les Alpes-Maritimes. On connaît bien le combat, très médiatisé. On découvre ici un peu mieux l'homme, assez pince sans rire, notamment quand il parle de ses arrestations à répétition, 6 au total. En garde à vue, dit-il, je fais des nuits de 17 heures et je peux m'exprimer car on m'écoute. Au fil des mois, il a transformé sa propriété en camp d'accueil. Il y a des toilettes sèches, certes pas assez. Il y a du wifi, il y a surtout des Érythréens, des Afghans, des Soudanais qui débarquent à toute heure de la journée. Cédric Héroux avait commencé en transportant illégalement des familles entières depuis Vintimille. Il explique avoir changé de stratégie depuis. Afin d'être crédible, j'ai compris qu'il fallait le plus possible rester dans la légalité, explique celui qui ne supporte plus de voir sa tronche dans les journaux. Il aurait même refusé le mois dernier un film inspiré de sa vie avec Romain Duris ou Vincent Cassel dans son propre rôle.
Le Monde se penche de son côté sur un phénomène qu'on pourrait voir arriver rapidement en France.
Oui, ça se passe aux États-Unis pour l'instant, le pays des centres commerciaux, des grands magasins, qui pourtant est en train de voir ces derniers disparaître peu à peu, bousculés par l'essor du commerce en ligne. Depuis le début de l'année, nous explique Daniel Hoffman, correspondant à New York, 7 millions de mètres carrés de boutiques ont fermé aux États-Unis, soit 960 terrains de football. C'est presque autant que sur l'ensemble de l'année 2016. Des centres commerciaux qui deviennent des entrepôts, des espaces de coworking, voire des salles de gym. Les grandes enseignes américaine bataille notamment contre la concurrence en ligne, dont celle du géant Amazon. En fait, le seul secteur de l'alimentation et le seul secteur qui semble épargné, c'est celui de l'alimentation, puisque l'e-commerce n'y représente que 1% des ventes pour l'instant, mais cette part va forcément augmenter dans les années à venir. Le problème, c'est que pour la même quantité d'activité, il faut 4 fois plus de personnel dans la grande distribution que dans le commerce en ligne, explique Daniel Hoffman, qui prophétise des centaines de milliers de chômeurs peu qualifiés dans les années à venir, un défi sociétal auquel les États-Unis vont devoir répondre.
Une sombre affaire de crampons dans cette revue de presse, crampons volés dans le magazine de l'équipe ce week-end.
Oui, le magazine lance une série sur les pilleurs du sport, ces petits et grands délinquants des stades et des vestiaires. Avec cette première histoire, celle du pilleur des vestiaires du PSG, elle remonte à l'automne 2014. Le club fait un début de saison en demi-teinte et ne s'inquiète donc pas tout de suite de l'apparition d'étranges petites annonces sur Le Bon Coin, dont une qui attire l'attention, faute d'orthographe incluse. travaille en tant que staff au camp des Loges. J'ai réussi à avoir des crampons de David Luiz, défenseur du PSG, tarif 200 euros. En remontant un peu, le responsable de la sécurité du club découvre d'autres ventes pour des chaussures de Lucas Digne ou Marquinhos cette fois. La police finit par piéger le vendeur qui finit lui par balancer son complice en interne, un jeune vigile aux mains baladeuses. Et en fouillant son domicile, il tombe sur une caverne d'Ali Baba, 21 maillots, 6 paires de chaussures, 11 coupe-vent, une parka appartenant au directeur sportif du club et même une montre à 12 500 euros offerte par le président du club la saison précédente à chacun des joueurs. Celle-là appartenait à Javier Pastore qui ne s'était même pas rendu compte de sa disparition. Les deux compères ont été condamnés à des peines de prison avec sursis et le vigile kleptomane est depuis devenu organisateur de soirées au cours desquelles il prend quelques selfies avec les célébrités invitées. Mais promis, nous dit l'équipe, c'est bien la seule chose qu'il conserve de leur rencontre.
Oui, oui. Allez, on termine avec l'histoire d'un cimetière imaginaire qu'on a tous déjà vu au moins une fois.
Et c'est toujours le magazine du Monde qui nous raconte cette histoire. Et si vous êtes cinéphile, vous allez tout de suite comprendre de quel cimetière on parle. Donc le cimetière de Sad Hill, un site construit de toutes pièces à l'époque par Sergio Leone dans la vallée de Mirandilla en Espagne pour le film Le Bon, la Brute et le Truand évidemment. C'est ici, rappelle Sandrine Morel, au milieu de 5000 tombes disposées en rond autour d'une grande dalle en pierre qu'a lieu l'affrontement final entre les trois personnages principaux. À l'époque, on est en 1966, près de 250 jeunes qui effectuaient leur service militaire à Burgos ont été réquisitionnés pour construire les tombes. Mais quand les équipes sont reparties, les croix en bois ont toutes servi à faire du feu dans les cheminées. Jusqu'à aujourd'hui, une poignée de passionnés tentent depuis 2 ans de faire ressortir le cimetière de sa tombe. Ils viennent de demander au gouvernement local de donner au lieu le statut de bien d'intérêt culturel. Ce serait le premier site espagnol protégé pour raisons cinématographiques. Près de 1600 tombes ont déjà été replantées. Avec un petit coup de main des fans du monde entier, pour 15 euros, vous pouvez en effet financer l'installation d'une croix avec votre nom dessus. Si une place d'éternel spectateur du plus grand duel de l'histoire du western vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire, Laetitia.
On creuse. Merci Olivier Bénis. C'était la revue de presse.